VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. Midi à Kinshasa, les services de sécurité algériens ont déjoué une tentative d'attentat par un groupe armé islamiste d'un centre commercial à Sétif dans l'est du pays. C'est ce que rapporte ce mercredi le quotidien gouvernemental El Massa. L'attaque était préparée par un groupe dont 8 membres ont été tués le 31 mai dans une embuscade de l'armée près de Gelta Zerka, à quelques 40 kilomètres à l'est de Sétif. Selon El Massa, citant des sources sécuritaires, ils étaient en lien avec le groupe État islamique en Libye. Le parc Mall de Sétif, à 300 km au sud-est d'Alger, attire environ 40 000 visiteurs par jour, selon les médias algériens. L'Érythrée dit craindre une reprise à grande envergure de la guerre avec l'Éthiopie. C'est ce qu'a déclaré hier son ambassadrice à Paris, Eric Manirakiza.
Anna Simon a hier déclaré que l'Éthiopie a déjà commencé à attaquer. S'exprimant dans une conférence de presse, elle a ajouté que la guerre peut être relancée n'importe quand, à grande envergure. Le 13 juin, les frères ennemis de la Corne et de l'Afrique se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché les hostilités à leurs frontières. Même le bilan des combats a été très disputé. Puis le régime éthiopien a mis en garde contre le risque de guerre totale. À Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit voter dans quelques jours sur la situation en Érythrée après un rapport accablant. La commission d'enquête a même recommandé une saisine de la Cour pénale internationale. Pour Anna Simon, ce rapport qui accuse Asmara de tous les crimes pourrait servir les intérêts éthiopiens et ses alliés. Selon elle, on diabolise un pays et après on l'attaque, comme ce fut le cas en Irak et en Libye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'opposition RDC dit non à l'appel du président Joseph Kabila à participer à l'enrôlement. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce une tentative de distraction du peuple congolais et de la communauté internationale quant à la date fixée par la Constitution pour la présidentielle. Et Mérida Mien Calvira est le président de la CCT.
Monsieur Kabila est en train de tout faire pour éloigner considérablement l'élection présidentielle et commencer tout simplement par les élections locales qui vont lui permettre de franchir le cap de décembre 2016 afin d'amender la Constitution et rester au pouvoir autant qu'il le voudra en copiant le modèle des autres dictateurs sanguinaires qui s'accrochent au pouvoir. Nous appelons les Congolais à la vigilance. Donc, ça n'était que des faits d'annonce qui ne riment pas avec la réalité. Les Congolais ne veulent plus d'un dialogue qui permettra à M. Kabila de rester au pouvoir. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une transition sans M. Kabila en vertu de l'article 64 qui donne aux Congolais les prérogatives de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui s'accrocherait au pouvoir en violation de la loi fondamentale. Une transition du salut public qui va permettre aux Congolais de restaurer leur constitution que M. Kabila est en train de vouloir jeter à la poubelle.
Emery Damien Calvira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Au Burundi, la police a annoncé l'arrestation de 7 personnes qui seraient impliquées dans le trafic de femmes et filles destinées au pays du Moyen-Orient. Certaines sociétés burundaises et étrangères seraient impliquées dans ce commerce de plusieurs centaines de filles burundaises qui seraient passées par l'aéroport international de Bujumbura. On fait le point avec notre correspondant dans la capitale burundaise, Christophe Nkurunziza.
Il y a une dizaine de jours, la police a reconnu avoir arrêter cette personne dont 3 Burundais et 4 Kenyans. Pour la première fois, la police parle de 11 sociétés impliquées dans ce trafic inhumain, dont 4 Burundaises. Pierre Mourikié, porte-parole de la police.
Il s'agit d'un réseau de criminels qui dépassent les frontières d'un pays. Le combat aussi contre d'autres actions doit être international pour qu'on puisse combattre ce phénomène de trafic des êtres humains partout où le réseau opère.
Selon le mouvement citoyen pour l'avenir au Burundi, plus de 2500 filles et femmes seraient parti au Moyen-Orient depuis 2005. Une association qui défend la protection de ces femmes et filles burundaises se réjouit de l'arrestation de cette personne impliquée dans ce trafic, mais demande de rester vigilant.
Nous avons proposé au gouvernement du Burundi la suspension manu militari immédiate et sans condition de toutes les activités menées au Burundi par les sociétés afin de protéger les enfants burundais.
La police indique qu'aucune autorité officielle n'est jusqu'à cette date impliquée à ce stade des enquêtes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les États-Unis et la France ont soutenu Hissène Habré tout au long de son régime. C'est ce qui ressort de deux rapports publiés mardi par l'ONG Human Rights Watch. Ces documents détaillent l'appui de Paris et Washington à l'ancien président tchadien, notamment dans sa prise de pouvoir et sa guerre contre l'invasion libyenne. Pour en savoir plus, Timothée Donangmaï a joint à Londres Reed Brody. Il est le porte-parole de Human Rights Watch.
La France a soutenu Hissène Habré surtout militairement. Il y a deux opérations militaires, Manta et Épervier, qui avaient pour objet de renforcer Hissène Habré et de bouter dehors la Libye de Muammar Kadhafi, qui occupait le nord du Tchad. Le soutien de la France et des États-Unis à Hissène Habré est largement dû à cette idée d'utiliser Hissène Habré comme bouloirte contre Muammar Kadhafi.
En quoi a consisté l'aide américaine à Hissène Habré?
Bon, les Américains étaient impliqués avant la France. C'est le gouvernement de Ronald Reagan qui a voulu que Hissène Habré prenne le pouvoir. Et la première opération clandestine de l'administration Reagan, c'était de porter Hissène Habré au pouvoir pour donner un coup de nez à Kadhafi. Et les États-Unis ont travaillé étroitement avec l'appareil sécuritaire de Hissène Habré. Il y a beaucoup d'agents de la fameuse DDS, la police politique d'Hissène Habré, qui était formée aux États-Unis. Il y avait même un fonctionnaire de l'ambassade américaine qui était considéré par la DDS comme liaison à cette police brutale. On sait aussi que les États-Unis avaient utilisé les soldats libyens capturés par Hissène Habré. La CIA a formé une petite armée contre Kadhafi dans une base clandestine au Tchad que même les Français ignoraient et qui était destinée à combattre Kadhafi. Mais finalement, Hissène Habré, il a été conversé avant que ces soldats entrent en action.
Hissène Habré a été condamné à Dakar. Que disent Washington et Paris par rapport à leur aide passée à l'ancien président tchadien?
C'est intéressant. Les États-Unis, il faut dire que l'administration Obama a été un des grands soutiens de la lutte des victimes. Les États-Unis ont fait pression et sur le Sénégal et sur le Tchad pour avancer. Le président Obama a même félicité Macky Sall pour l'initiative de juger Hissène Habré. Et au moment de la condamnation d'Hissène Habré, le secrétaire John Kerry avait dit que cette condamnation présentait une occasion pour les États-Unis d'examiner, de tirer des leçons sur la connexion, comme il a dit, des États-Unis avec les événements du Tchad d'Hissène Habré. Bon, la France a aussi soutenu les Chambres africaines extraordinaires, mais beaucoup plus modestement. Et la France n'a jamais parlé publiquement de son soutien passé à Hissène Habré.
Reed Brody, porte-parole de Human Rights Watch, joint à Londres.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le triple attentat suicide qui a frappé mardi soir à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul a fait 41 morts et 239 blessés, selon un nouveau bilan officiel. L'attaque meurtrière est imputée apparemment, selon le gouvernement turc, au groupe État islamique. Les dirigeants des pays de l'Union européenne se sont retrouvés ce matin à Bruxelles pour la première fois sans le Royaume-Uni pour tenter de tracer de nouveaux horizons à un projet européen ébranlé par le Brexit. Si David Cameron a quitté la capitale européenne mardi soir après son dernier sommet européen, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a fait le chemin inverse vers Bruxelles pour évaluer les chances de l'Écosse de rejoindre l'Union européenne en tant qu'entité indépendante. Et puis, les électeurs de Californie, nous sommes ici aux États-Unis, vont décider en novembre de légaliser ou non la marijuana à usage récréatif. Une proposition de loi ayant récolté les quelques 360 000 signatures nécessaires pour être soumises au vote ont annoncé mardi les autorités locales. Si elle est acceptée, cette mesure autoriserait les personnes de plus de 21 ans à acheter environ 30 grammes de marijuana ou des produits à base de cette drogue, ainsi qu'à cultiver jusqu'à 6 plants pour un usage personnel. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral, mais un certain nombre d'États américains, dont le Colorado, l'Oregon et Washington, ont légalisé la marijuana pour un usage récréatif et d'autres pour un usage médicinal. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.